Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Deux mois après le début des mouvements de contestation contre le projet de loi travail, le gouvernement paraît embourbé dans une confrontation avec les opposants à la loi El Khomri. Les récentes manifestations ont été entachées de violence de la part des manifestants qui seraient infiltrés par des groupes de casseurs, mais aussi de la police. En effet, les forces de l'ordre sont accusées par certains opposants de pratiquer la politique de la tension, mais la surenchère sécuritaire est estimée nécessaire par le gouvernement qui dénonce des débordements. Alors, la contestation s'est-elle radicalisée? Le pouvoir abuse-t-il de prérogatives liées à l'état d'urgence? Bonjour Michel Viviorca.
Bonjour.
Vous êtes président du directoire de la Fondation des sciences de l'homme. De quoi la violence est-elle le symptôme aujourd'hui?
C'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce qu'on n'en sait pas assez sur qui sont les acteurs de cette violence. On peut se dire ce sont des éléments radicalisés du mouvement. Après tout, ça existe. Je veux dire, des gens qui représentent son aile un peu extrême, en quelque sorte. On peut dire que ce sont des individus qui n'ont rien à voir avec le mouvement, ni de près, ni de loin, et qui viennent ici le plaisir de casser, le côté jouissance apprise dans l'acte de violence. On peut dire encore, ce sont des éléments politisés, extérieurs, et qui... bon. Et puis aussi, on peut commencer à introduire d'autres idées sur est-ce que le contexte de ces mobilisations ne favorise pas, quelle que soit l'hypothèse, des violences de ce genre? Quel est le rôle de la police? Quel est le rôle des médias? Est-ce que j'ai lu des articles récemment qui expliquent que les techniques de canalisation des manifestations aujourd'hui ont beaucoup évolué par rapport à ce qui était le cas il y a encore une dizaine ou une quinzaine d'années, qu'on ne laisse pas, comme dans le passé, des couloir de sortie très facile pour tous ceux qui voudraient quitter les violences. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une dimension d'interaction? Oui, on n'en sait pas assez.
Pensez-vous que la société française, du point de vue de ses mobilisations sociales, soit plus violente aujourd'hui qu'hier, Michel Viviorca?
Écoutez, moi d'abord, je pense que dans l'ensemble, elle l'est beaucoup moins qu'hier. Je pense même que la violence est devenue un tabou dans notre société. Comme intellectuel, je me souviens de Jean-Paul Sartre. De l'époque de, je dirais même de Michel Foucault. Je me souviens de Jean-Paul Sartre dialoguant avec les maoïstes et leur disant, allez-y, en quelque sorte, soyez violents, ou faisant la fameuse préface. Vous voyez, bon, aujourd'hui, ça ne passerait plus. Nous n'aimons plus la violence. Nous n'aimons plus l'idée de révolution en France. Ou beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins qu'avant. Et donc, moi, je pense que notre société, c'est une sorte de tabou, même la violence. Ce que ce n'était pas il y a une trentaine, une quarantaine d'années.
Et cependant, pour un sociologue, la violence peut être interprétée comme étant une manière de voir s'épuiser les formes de mobilisation sociale. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression que les mobilisations sociales soient aussi faciles que jadis. Enfin, ce n'est peut-être pas d'ailleurs votre avis, mais en tout cas, la violence qui survient dans les manifestations, est-ce qu'elle signifie qu'il est compliqué aujourd'hui de prendre la parole, de s'exprimer?
De façon très générale, mais après il faut nuancer, mais de façon très générale, je pense que la violence est plutôt le contraire du mouvement social ou culturel qu'un élément qui en fait partie. Mais je sais aussi très bien que beaucoup de luttes présentent des dimensions de violence qui ne sont pas négatrices du sens de l'action. Donc là encore, évitons les théorisations trop hâtives. Il faut mieux, si on prend ce qui se passe en ce moment, aller y voir concrètement, avoir des enquêtes, avoir des journalistiques, sociologiques.
Alors justement, aujourd'hui, les policiers manifestent. Ils manifestent pour dire, en quelque sorte, leur malaise. Il y a un grand nombre de sondages qui ont été faits sur l'attitude des Français par rapport à leur police. Il y a un sondage qui dit aujourd'hui dans Le Parisien que 91% des Français comprennent les policiers. Mais alors, dans une formulation qui doit être précisée, puisque la question très longue que pose Le Parisien est, avec l'état d'urgence qui dure depuis des mois, le mouvement Nuit debout et les manifestations contre la loi El Khomri, de plus en plus de policiers disent ressentir du ras-le-bol, de la fatigue physique et morale. Vous, personnellement, les comprenez-vous? Et là, 91% des Français répondent qu'ils les comprennent. En revanche, à la question « Estimez-vous que la police a fait usage de la force de façon excessive ?», 23% des Français considèrent que les policiers ont fait un usage excessif de la force. Est-ce qu'on a affaire à deux France, Michel Viviurca ?
Bon, écoutez, moi je trouve qu'on a surtout affaire à une drôle de façon de connaître la réalité. Au lieu de dire « il se passe ceci, il se passe cela », on demande aux gens « comment ressentez-vous ce qui se passe ?» Et on leur demande « comment pensez-vous que les autres ressentent ce qui se passe ?» Je trouve que c'est une façon de regarder notre société qui est stupéfiante. Moi, c'est comme la météo. On ne me dit pas qu'il fait 5 degrés dehors, on me dit que je vais ressentir plus 8 ou moins 3. Bon, ben non, j'aime bien savoir s'il fait 5 degrés aussi, quand même. Et donc, je pense qu'il faut être très prudent vis-à-vis de ce genre de sondage. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on est dans une société qui est surtout dans une période de doute politique, qui a le sentiment que son avenir politique se fait sans repère, se fait sans projet, sans vision, de tous les côtés. Et que ça inquiète. Et qu'à partir de là, bon, on pourrait avoir différents ressentis.
Alors, il y a évidemment un lien, en tout cas dans votre pensée, Michel Viviurca, entre l'épuisement d'un certain nombre de formes politiques traditionnelles et les mobilisations sociales. Vous avez récemment publié une tribune dans Le Monde où vous étiez très critique par rapport à la situation de la gauche. Expliquez-nous pourquoi.
Si je simplifie à l'extrême, je vous dirais ceci. La gauche, aujourd'hui, si on regarde la gauche au pouvoir, la gauche qui gouverne, non pas la gauche de gouvernement, mais la gauche de gouvernement, disons. La gauche au pouvoir, après le 13 novembre, elle s'est installée dans une position droitisée. En deux temps. Premier temps, après les attentats, des mesures qui disent identité nationale, déchéance, guerre contre le terrorisme, mesures d'urgence, état d'exception. Enfin, c'est un discours peut-être nécessaire, mais enfin qui droitise l'action gouvernementale. Premier temps. C'est plutôt Manuel Valls. Et puis, deuxième temps, la loi El Khomri. Et dans sa première version, encore plus qu'aujourd'hui, bien sûr, mais dans sa première version publique, il y a peut-être d'autres versions qui ont circulé entre les cabinets ministériels, bien sûr, mais dans sa première version publique, c'est également une mesure qui droitise, à l'évidence, l'action gouvernementale. Elle est saluée de façon très positive par le MEDEF, bon, et par la droite. Et donc, on a... Ça, c'est plutôt l'image Macron-Valls ensemble, d'une certaine façon. Même si Macron n'est pas en première ligne ici. Et donc, d'un côté, un gouvernement qui donne l'image d'aller vers la droite de la gauche, et puis ensuite, rien comme figure politique incarnant la gauche de gouvernement, jusqu'à des gens qui sont dans la contestation. Ça commence, je dirais, à la gauche de la gauche, donc avec Benoît Hamon, et à mon sens, ça continue vers les Frondeurs, Montebourg, etc. Et donc, il y a un vide énorme qui se creuse dans l'image qu'on peut avoir de ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, qui sont entre une gauche droitisée d'un côté, une gauche de gauche, si je peux dire, d'un autre côté, et rien. Et c'est ça qui a dégelé, je pense, la parole citoyenne. C'est plutôt le côté nuit debout. C'est ça qui a, poussé les gens dans la rue aussi pour ces manifestations contre la loi El Khomri. Voilà un peu le paysage politique à gauche pour moi.
Est-ce que ça veut dire que la gauche a du mal à élaborer des idées neuves en matière sociale, que cette notion même de social-démocratie se déporte progressivement vers la droite, selon vous ?
Bon, d'abord, il faut donner au mot un sens précis et historique. On discutera tout à l'heure avec Daniel Tartakovsky. La social-démocratie, c'est quand même une réalité historique qui veut dire deux choses principales. Un, l'État-providence, et deux, le pouvoir politique repose en quelque sorte sur le mouvement social, et en l'occurrence plutôt le mouvement syndical. Alors aujourd'hui, parler de social-démocratie est une plaisanterie. On a plutôt un pouvoir qui est en guerre contre les trois quarts des syndicales. Donc, on peut difficilement parler de social-démocratie. Et donc, une fois qu'on a dit ça... vous pouvez reformuler
votre question. Oui, sur le fait que la social-démocratie aujourd'hui est de plus en plus à la recherche d'idées à droite.
Oui, c'est ça. Alors, je ne dirais pas qu'elle est à la recherche d'idées. Moi, je suis frappé de voir que la gauche aux affaires s'est tenue à distance de toute construction intellectuelle, de tout effort pour penser l'avenir.
Bon, moi, toute construction intellectuelle, ça veut dire que ce pouvoir n'a par exemple pas de lien avec les intellectuels. Vous n'avez pas été consulté, vous n'avez pas...
Ah ben écoutez, je connais beaucoup de monde dans cette gauche au pouvoir. J'ai beaucoup d'amis personnels, mais je peux vraiment vous dire que j'ai eu le sentiment d'une régression au niveau de la tête de l'État. Je le dis très simplement.
Régression par rapport également à, la vie des idées. À ce qui se faisait sous Nicolas Sarkozy.
Ah bah écoutez, alors à l'époque où Nicolas Sarkozy était aux affaires et où Martine Aubry, alors je suis son amie mais je ne dis pas ça par amitié pour elle, d'autant que on peut pas me soupçonner de faire de la politique à sa place. Donc, mais enfin, quand elle a été la patronne du Parti Socialiste, elle a installé rue de Solferino un laboratoire des idées. Il y avait des gens qui se réunissaient, des groupes de travail. C'était Christian Paul, aujourd'hui frondeur numéro 1, qui s'occupait de ce laboratoire des idées. Il avait mis en place différents groupes qui réfléchissaient sur toutes sortes de dossiers, toutes sortes de problèmes. Il y avait une effervescence. Tout ça, c'est fini. Tout ça, bon. Et donc, et je vais vous le dire encore autrement, et c'est peut-être encore plus grave, un parti politique qui ne s'occupe pratiquement plus de la formation de la jeunesse, de la formation des futures élites politiques. C'est gravissime. Je ne vois pas grand-chose du côté du Parti Socialiste. Genre, je vois beaucoup plus de choses du côté du Front National s'il s'agit de former les futures élites.
On en parlera dans quelques instants. Lorsqu'on lui fait la reproche d'être coupé des intellectuels, de ne pas avoir créé ou suscité de mouvement d'enthousiasme par rapport à son gouvernement, François Hollande rétorque que les électeurs de gauche sont condamnés à être malheureux, qu'il y a la période de l'opposition qui est en quelque sorte une période pratiquement enchantée, et puis la période de gouvernement qui, là, marque un choc contre le réalisme. Ça n'est pas une explication, Michel Viviorca ?
En tout cas, on ne peut pas en faire une théorie. On a connu d'autres époques où la gauche était aux affaires et où ce genre de questions n'étaient pas du tout formulées.
À quelle période pensez-vous ?
Bah, écoutez, la période Jospin, pour prendre la période la plus proche de nous.
C'est une période qui ne s'est pas très bien terminée.
Ah, bien sûr que ça s'est terminé de façon dramatique pour les électeurs de gauche et pour les gens qui veulent croire en l'idée de gauche, si vous voulez. Mais enfin, et surtout pendant les deux premières années, les gens parlaient de Dream Team, les gens parlaient d'une gauche qui réussissait, alors même qu'elle était parvenue aux affaires de façon stupéfiante, parce que le gouvernement, Jacques Chirac avait décidé de dissoudre l'Assemblée. Donc, et tout le monde, à l'époque, pensait qu'il n'y avait pas de gauche. Et d'un seul coup, elle est née. Et elle a fait son boulot.
Michel Viviorca, vous publiez Le séisme, Marine Le Pen présidente. C'est une politique fiction. C'est aussi probablement un scénario que vous jugez, sinon vraisemblable, du moins plausible. Aujourd'hui, vous pensez qu'on est conduit, en quelque sorte, aujourd'hui, chaque jour, un peu plus vers une montée au pouvoir du Front National ?
Il y a deux choses. Il y a effectivement une montée du Front National. Ça, je crois qu'on en parle peu en ce moment, mais c'est une réalité. Mais il y a, deuxièmement, à réfléchir sur ce qui est au cœur de cette dynamique si le Front National arrivait aux affaires. J'ai pas du tout voulu faire une prévision historique, évidemment. J'ai voulu dire, voilà ce qui pourrait se produire si le Front National obtenait la présidence de la République.
Il y a un lien entre la manière dont le mouvement social se mobilise, s'exprime, et la possibilité d'une venue au pouvoir du Front National ?
Hélas, oui. Je dis hélas parce qu'évidemment, ce mouvement social n'est pas du tout un mouvement de type Front National. Mais si vous discutez avec n'importe qui connaît l'intérieur du monde syndical, qui sait ce qui se passe dans les entreprises, tout le monde vous dira que partout, des salariés, des ouvriers, des employés, des gens qui sont au travail, se radicalisent aussi idéologiquement vers le Front National. Que c'était une tendance très forte, il y avait encore ces jours-ci des articles dans la presse pour le secteur hospitalier, mais je peux vous dire que c'est vrai dans un très grand nombre de secteurs.
On va voir si ce mouvement est résistible ou pas en seconde partie à 8h15, Michel Viviorca. Vous serez effectivement rejoint par Daniel Tartakovsky, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Paris 8. On verra avec elle dans quelle mesure cette mobilisation sociale à laquelle on assiste correspond à d'autres formes de mobilisation sociale antérieure. Et puis, nous serons également en compagnie d'un journaliste, Gaspard Glantz. Je l'ai invité pour tenter de comprendre si le traitement médiatique des casseurs est un traitement médiatique qu'on peut remettre en cause, s'il peut y avoir une autre présentation des faits, puisque c'est un journaliste qui a beaucoup suivi l'actualité sur le terrain. Il est 7h55 sur France Culture.